RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Bonjour à tous, Motors, en direct jusqu'à 14h. Salut Jean-Luc Roy.
Salut Louis Amar, bonjour à tous.
Dans un instant, on parle des 24 heures du Mans qui auront lieu le week-end prochain. Notre premier invité, c'est Pierre Fillon, patron de l'Automobile Club de l'Ouest qui organise l'événement. Dans une vingtaine de minutes, la F1, Grand Prix du Canada ce soir à 20h10. C'est Sébastien Vettel qui s'élancera en pole position. Dans Radio Paddock, on évoquera le Grand Prix de France qui arrive avec son ambassadeur, Éric Boullier, l'ancien patron de Lotus et McLaren. C'est parti pour Motors, bienvenue. Adrien Tambay est avec nous. Salut Adrien.
Salut Louis, salut à tous. Salut
Jean-Luc, Louis. On va parler des 24 heures du Mans dans un instant. D'abord, juste un mot de Formule 1. C'est donc Sébastien Vettel qui partira en pole ce soir au Canada. Enfin, une éclaircie pour Ferrari.
Et oui, c'est la deuxième pole de Ferrari. Après celle de Charles Leclerc, c'était à Bahreïn. Et la première pole de Vettel depuis très longtemps, depuis le Grand Prix d'Allemagne l'an dernier. C'était même la cinquième l'an dernier. Il était bien parti en saison. Et puis après, ça a été un peu la catastrophe, on s'en rappelle. Donc c'est une lueur d'espoir et même un peu plus. Parce que même en essai libre, les Ferrari étaient rapide, comme je dois faire concis, bah oui, c'est de beaux espoirs, déjà pour ce Grand Prix et peut-être pour la suite de la saison.
Et ça promet, Adrien, une course très spectaculaire.
Ouais, déjà, c'est un circuit où il se passe toujours des choses. Le Canada, un circuit semi-urbain, et puis voilà, avoir aussi un Max Verstappen qui part loin, un circuit où ça double, la température qui est assez élevée, la dégradation de pneumatiques, une Ferrari qui part en pôle, un Hamilton qui est très fort au Canada, ça va être une course à rebondissement, c'est sûr.
Départ de ce Grand Prix ce soir à 20h10, vous le suivrez en intégralité sur RMC. On y revient en longueur d'ici une vingtaine de minutes. Mais d'abord, on part au Mans.
RMC Motors.
190, 150 mètres, droitier, 320.
Le briefing.
Le Mans, où se tiendra la semaine prochaine la 87e édition des 24 heures. Pour en parler, on accueille l'organisateur de l'événement, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, Pierre Fillon. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc.
Bonjour Pierre, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui en direct pour préparer cette 87e édition. Alors déjà le poids des ans, mais c'est dans le bon sens, hein, parce que c'est quand même une tradition, les 24 heures du Mans. Moi j'ai coutume de dire évidemment que c'est l'une des plus grandes courses du monde avec les 500 miles d'Indianapolis. Et moi je pense devant le Grand Prix de Monaco, vous êtes d'accord?
On est d'accord.
Alors le programme, il démarre en fait dès aujourd'hui, puisque les contrôles techniques et administratifs, il faut le rappeler, les personnes de la région du Mans, de la Sarthe et même d'ailleurs, peuvent venir. Et ça, c'est toujours un moment extrêmement important parce qu'on peut approcher les voitures, on peut approcher les pilotes. C'est en ce moment, alors c'est plus la place des quinconces, hein, maintenant c'est la place de la République, c'est ça, c'est pas loin.
Absolument, ça commence à 14h30 tout à l'heure, place de la République, et c'est un moment très important. C'est important que les 24 heures se déplacent du circuit vers la ville et que les habitants du Mans puissent profiter aussi de ce spectacle. Alors on va effectivement... voir toutes les voitures, les commissaires techniques vont vérifier tout ce qui est en termes d'homologation, mais c'est une communion avec les habitants du Mans qui peuvent toucher les voitures, voir les pilotes, c'est un très beau moment et ça dure aujourd'hui et demain.
Et oui, en fait c'est une grande semaine du Mans, c'est ce qu'il faut toujours dire, puisqu'effectivement c'est étalé sur deux jours, et après les essais, il faut le rappeler aussi, c'est mercredi et jeudi, alors d'abord à chaque fois une séance d'essais libres et puis les séances d'essais qualifs entre jour et nuit, nuit et jour. Par parenthèse, on parle toujours un peu de la météo, qu'est-ce que vous avez comme éclaircissement, au moins pour mercredi, on va dire.
Bah écoutez, pour l'instant, la météo est assez instable, donc un peu difficile à prévoir. Il est possible qu'il y ait un peu de pluie mercredi, mais ça s'arrange pour la fin de la semaine.
Eh ben, on y croit. Alors, on a vu que la fameuse séance d'essai, la journée test, ce sont les Toyota qui ont été les plus rapides, les deux Toyota, donc, qui dominent le championnat du monde, dont ce sera la finale. Alors là aussi, il faut bien rappeler que la saison, ça n'est plus une saison calendaire, hein, vous avez initié ça maintenant, la saison se termine avec les 24 heures du Mans.
Voilà, c'est cette 87e édition sera exceptionnelle parce que ça sera la super finale de cette fameuse super saison. En fait, on avait un championnat qui démarrait au mois de mars, avril avec Silverstone, et qui se terminait au mois de novembre. Et c'est vrai qu'avoir les 24 heures au milieu de cette saison, c'était pas très logique.
Oui, c'était un peu.
En général, on termine par l'Everest quand on quand on veut grimper les plus hautes montagnes. Et donc, on voulait absolument mettre les 24 heures du Mans en finale, à la fin de ce championnat. On peut pas faire les 24 heures du Mans au mois de décembre parce que la météo est encore moins bonne qu'au mois de juin. Et donc, il fallait absolument faire une saison un peu comme le football qui part de septembre et qui se termine au Mans. Et pour faire cette transition, on a imaginé cette super saison qui a commencé en fait en mai l'année dernière.
Coup, voilà, avec Spa.
Qui comporte deux fois le Mans. Donc cette année, pour un côté championnat du monde, c'est vraiment la vraie revanche de l'année dernière.
Est-ce que ce nouveau format, pour vous, Pierre Fillon, il va encore valoriser davantage les 24 heures du Mans?
Oui, je crois que c'est important parce que c'est vrai que ce championnat sans les 24 heures du Mans serait pas ce qu'il est. Mais il faut pas non plus que les championnats les 24 heures écrasent le championnat. Et quand vous avez la moitié des points qui sont déjà distribués à la moitié de la saison, c'est vrai que le reste de la saison peut être un peu moins, en tout cas un peu moins attractif. Alors que là, tout se joue vraiment, tout peut se jouer jusqu'à la fin.
Avant qu'on en revienne aux sportifs avec Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous donner des indications chiffrées sur ce que représentent les 24 heures du Mans? Combien de spectateurs vous attendez? Dans combien de pays c'est diffusé? Combien de journalistes accrédités? Est-ce que vous avez ces informations-là?
Alors, les 24 heures du Mans, c'est entre 250 et 260 000 spectateurs. Donc, c'est une petite ville pendant une semaine qu'il faut oui. gérer avec tous les problèmes que vous imaginez qu'on peut rencontrer dans une ville. Après, c'est 5000 personnes qui travaillent, dont 2000 bénévoles. Et ça, c'est important. Imaginez qu'il y a 1600 commissaires. Vous savez, ces commissaires sans lesquels on ne pourrait pas faire les courses. Après, c'est 126 millions de spectateurs, de téléspectateurs potentiels. Voilà pour les grandes masses.
Jean-Luc. Et puis, je rajouterais, moi, les 13 km 600, effectivement, de ce circuit absolument mythique. Bon, là, pour une fois, je vais être immodeste. J'ai eu la chance d'y participer à deux reprises, en 88, 89, d'ailleurs, par parenthèse, Pierre, avant qu'on installe les chicanes dans la ligne droite. Donc, on était 50 secondes à fond. Et bon, c'est un événement absolument fantastique. Et j'en reviens à cette valeur, effectivement, sportive. Parce que là, pendant 24 heures, d'une part, les mécaniques doivent tenir, avec maintenant une hybridation qui est assez complexe. On va venir au règlement dans un instant. Mais aussi, les pilotes doivent tenir, parce que les conditions météo vont certainement être changeantes. Donc, il faut vraiment une force mentale. Puis, il faut tenir la distance.
Oui, c'est une vraie aventure humaine, les 24 heures du Mans. Et on a ce circuit qui est à la fois une partie qui est permanente, mais l'autre qui est la route de tous les jours.
C'est ça.
Ce qui donne des paramètres.
La fameuse ligne droite des Hunaudières.
La fameuse ligne droite des Hunaudières et le virage d'Indianapolis et Arnage. Ouais. Ça dure 24 heures. Il peut pleuvoir à un endroit du circuit, pas à l'autre. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a la fatigue. Et vous imaginez que 24 heures, c'est quelque chose d'éprouvant. Donc on va vraiment à la limite à la fois de la mécanique, mais aussi des hommes. Et c'est ça qui fait la beauté de cette course.
Et puis des vitesses de pointe, on l'a dit, de l'ordre, on parlait de 350 km/h. Bah là aussi, on atteint 350 km/h. À l'époque, on avait même atteint 405 km/h. C'est le record absolu, hein, dans la ligne droite des Hunaudières avec Roger Dorchy.
Avec une Peugeot.
Exactement, en 88. Donc c'était parce qu'on pouvait effectivement se lancer. Pierre, il y a plusieurs choses à dire. Il y a tellement de choses. On n'a pas deux heures, malheureusement. Mais en exergue, il y a aussi au Mans toujours une recherche de la technologie. Je rappelle que les freins à disque, ça vient du Mans et pas d'ailleurs. Les phares à iode, ça vient du Mans et par ailleurs. Enfin, on va pas citer toutes les améliorations technologiques qui ont abouti à la voiture de tous les jours et qui viennent des 24 heures du Mans. Là, vous avez misé sur l'hydrogène, on peut dire. On entend parler d'électricité sans arrêt, mais il y a d'autres possibilités. On peut fournir de l'électricité avec de l'hydrogène et je crois que ce projet à long terme, qui se conclura par un engagement, va être matérialisé par une voiture à hydrogène qui va partir devant lors du lancement de la course.
Alors tout à fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites au Mans et le Mans, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir venir tester et développer des technologies qu'on verra dans nos voitures et équilibrer des technologies différentes, ce qui n'est pas toujours simple. On a vu l'hybride.
On y viendra tout à l'heure avec le règlement.
L'hybride, on y a pensé dès 2008 et aujourd'hui, on a des voitures hybrides qui gagnent le Mans. Et là, effectivement, on est parti sur l'hydrogène. L'hydrogène qui est en train quand même de devenir le sujet de tous les constructeurs. Quand on parle de mobilité maintenant, on ne parle plus de l'hydrogène comme on en parlait même il y a un an. Beaucoup d'avantages l'hydrogène par rapport à la batterie, parce que pas de temps de recharge, pas de batterie à recycler.
Exactement, puis c'est un vrai carburant propre. Hein. Il y en a partout, il y en a dans l'eau, il y en a dans l'air.
Et ça ne produit que de l'électricité et de l'eau. Donc on a misé sur l'hydrogène, à la fois en faisant un groupe de travail qui est chargé d'élaborer un règlement, puisqu'en 2024, on veut qu'une voiture à hydrogène, à pile à combustible, puisse gagner le Mans, donc avec zéro émission de CO2. Et puis, on a lancé cette mission H24, où on s'est associé avec Green GT.
Qui a installé
un groupe propulseur dans une LMP3. Et donc, cette voiture, qui va bientôt rouler en compétition, dans le cadre de la Michelin Le Mans Cup, elle sera au Mans, et elle va rouler effectivement à 14h42, pour montrer au monde entier que cette technologie est sûre et efficace.
C'est beaucoup mieux que les gros groupes électrogènes diesel hein, à 300 mètres plantés qui alimentent d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je peux pas m'empêcher.
La référence n'était pas du tout.
On en vient au people parce qu'on va rafraîchir l'atmosphère justement, ça tombe bien, avec deux personnes de qualité. Alors une charmante évidemment que tout le monde connaît qui va donner le départ des 24 heures du Mans après que son illustre mari l'ait fait. Alors dévoilez-nous, enfin on sait de qui il s'agit, c'est une grande sportive.
Absolument, on est très très honoré que la princesse Charlène de Monaco vienne donner le départ. C'était important, c'est une femme Monaco et Le Mans.
Il y en aura trois au départ. Il y a un équipage féminin.
Il y aura effectivement un équipage 100% féminin avec lequel on a travaillé avec la FIA et Michel Mouton et Jean Toth parce qu'on veut promouvoir dans l'avenir les femmes en endurance.
Bah ça c'est une bonne nouvelle. Alors la deuxième c'est Patrick Dempsey qui est lui un vrai gentleman driver comme on les aime, comme Steve McQueen. Malheureusement certains pensent qu'il a roulé. Malheureusement il n'a jamais roulé en course au Mans. Il a roulé mais pour son film. Mais bon il y a d'autres acteurs.
Docteur Mamour hein, pour les intimes. Hein,
oui
pour
oui.
Ceux qui resituent pas tout de suite Patrick Dempsey.
Ah bah oui oui. Oui, comme Paul Newman, lui a roulé. Enfin bon, on va pas faire la liste. Et donc, vous allez décerner donc une récompense, j'allais dire, ou classer plus ou moins Patrick Dempsey dans une catégorie illustre du Mans.
Voilà, tous les ans, on nomme c'est ce qu'on appelle un Spirit of Le Mans. Donc c'est une
expression
personnalité,
rébelle,
une personnalité qui a fait quelque chose pour Le Mans, qui a un vrai ambassadeur du Mans. Et donc il y a eu Jackie X, Henri Pescarolo, Dr Ulrich, Hugues de Chaudac, Jacques Nicolet, enfin beaucoup d'autres avant lui. Et cette année, c'est Patrick Dempsey. Pourquoi Patrick Dempsey? Ben d'abord parce qu'il a été pilote.
Et absolument.
Il a fait les 24 heures. Il a ensuite été team manager. Il a une écurie aujourd'hui, une très belle,
c'est un vrai
très belle écurie. Donc c'est un vrai passionné du Mans. Et donc c'est logique que ça lui revienne cette année.
Bon, c'est génial. Allez, on en vient Pierre à la partie règlement. On est obligé d'en parler hein, parce qu'effectivement, on sait qu'on est à la fin d'un cycle. C'est le cas de le dire que vous travaillez sur le nouveau règlement qui devrait s'imposer en 2020 normalement. Et on sait que c'est compliqué. Vous parlez d'équilibre entre bon les Toyota qui ultra domine, on va pas se la jouer. Je dis pas qu'ils vont remporter les 24 heures à nouveau. D'ailleurs, par parenthèse, avec un certain Fernando Alonso qui a malheureusement pas pu se qualifier à Indianapolis et qui va peut-être essayer en tout cas de remporter non seulement le championnat du monde, mais aussi les 24 heures pour une deuxième fois. Donc équilibre. Comment vous faites? On parle de bop, de hop. Enfin, il y a tout un tas de formules techniques. On va peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais le futur règlement se dessine comment? Alors, je crois qu'il y a une annonce bientôt, mais vous allez tout nous dire aujourd'hui, évidemment.
Alors, deux éléments. D'abord, effectivement, vous parlez de cette année Toyota. Toyota n'est pas sûr de gagner parce que le Mans n'est jamais écrit d'avance. Et on l'a vu.
Toyota a payé pour le savoir,
absolument.
Déjà.
Hein.
Même s'ils ont dominé, effectivement, les tests et qu'ils ont gagné l'an dernier, on le rappelle.
Absolument. Hein. Mais par contre, on a fait ce qu'on appelle une équivalence de technologie pour équilibrer des voitures hybrides avec des voitures qui ne sont pas hybrides, que sont les Rébellions et les SMP et autres LMP1. Mais vous verrez cette année qu'elles seront très proches en termes de performance. Alors le futur règlement, il arrivera en septembre 2020. C'est ce fameux règlement Hypercar,
voilà,
qui était basé sur trois piliers, réduire les coûts, parce que on sait qu'aujourd'hui l'industrie automobile ne peut plus se payer des budgets comme on pu se voir.
Il y avait Audi, Porsche et Toyota, on le rappelle, il n'y a pas si longtemps.
On a diminué par 4 le budget.
Ah oui.
Ensuite, on garde bien sûr une technologie hybride parce qu'il faut penser à l'environnement avant l'hydrogène, et donc mais un système plus simple, moins onéreux. Et puis on veut surtout que les fans et les téléspectateurs, mais aussi pour les marques, c'est important qu'on puisse reconnaître la voiture, savoir que c'est telle marque ou telle marque, ce qui n'était pas le cas puisque les LMP1 sont plutôt dessinés par les lois d'aérodynamique et se ressemblent beaucoup. Donc voilà les trois piliers de ce règlement. Alors après,
ça a été compliqué, hein, parce qu'effectivement, il y avait des parties prenantes, il y a des gens qui sont, je vais pas citer de nom, mais il y a des constructeurs qui devaient venir, puis qui viennent pas, finalement. Donc, on les a écoutés, on les a entendus, peut-être, mais.
Vous savez, il faut les écouter, c'est important, mais à un moment donné, chacun veut tirer le meilleur du règlement, et à un moment, il faut figer les choses. On avait dit qu'on les figerait pour les 24 heures et qu'on ferait des annonces.
Et donc, vous allez tout nous dire maintenant.
Je vous invite à venir à cette très belle conférence de presse qu'il y aura vendredi à 10h.
Bon,
mais je vous promets que vous serez pas déçus.
Bah, j'en suis certain. Bon, mais c'est en tout cas une bonne nouvelle. En tout cas, cette édition des 24 heures, on l'a dit, 87e édition. Est-ce qu'on peut dire que oui, même si le règlement doit perdurer avec quelques aménagements pour la saison prochaine, c'est peut-être la fin d'un cycle et c'est pour ça qu'il faut y venir aussi parce que c'est la fin, en tout cas, d'une photo avec les Toyota. Et vous l'avez dit, par parenthèse, la vitesse de pointe, ce n'est pas une Toyota qui l'a établie, hein, une droite et une audière. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette équivalence de performance, elle joue.
C'est une SMP.
Exactement.
Oui.
Stoffel Vandoorne, c'est ça?
Absolument.
Ouais. Ouais. 350 km/h. Tout à fait.
350 km/h.
Ouais. Ah, oui. Et avec deux chicanes, hein, donc ça veut dire que effectivement.
Donc avec une vitesse coupée.
Et une vitesse qui a été coupée deux fois. Donc avant, effectivement, on pouvait se lancer sur 5 800 km exactement, 50 secondes à fond.
D'où elle vous vient, Pierre Fillon, cette passion de la vitesse?
Alors je sais pas si c'est la passion de la vitesse, en tout cas la passion du sport automobile, certes. Vous savez, quand on est né au Mans, déjà c'est un peu difficile de passer à côté. Et puis j'avais un grand-père qui était absolument passionné, qui a failli faire les premières 24 heures en 1923. Et ce grand-père, il m'a emmené sur ses épaules dès mon âge de 6 ans. Et depuis 66, j'ai pas loupé une seule fois les 24 heures du Mans.
Mais vous retrouvez à la tête de l'organisation de cet événement, ça doit être symboliquement quelque chose de fort pour vous, pour votre famille. On se souvient que, par exemple, pour ne rien trahir, votre frère François Fillon prenait souvent dans ses moments politiques, dans ses moments de campagne, des exemples, des références aux 24 heures du Mans.
Oui, c'est vrai que le sport automobile a toujours été une grande valeur dans la famille. Moi, après, j'ai d'abord été pilote avant de...
Mais ce que je veux dire, François l'a toujours dit, je me permets de l'appeler François parce que je le connais aussi, mais Pierre est plus rapide que lui. Hein, je ne mens pas, Pierre.
C'est moi qui l'avais mis.
Ne cache pas le déjeuner.
Voilà. Non, mais je le dis.
Mais voilà, j'aurais jamais pensé que je passerais de l'autre côté de la barrière et devenir organisateur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est avec une grande fierté surtout d'avoir une équipe absolument formidable qui organise cette course, mais aussi le championnat du monde. Et donc beaucoup de bonheur pour moi d'être à cette position.
Une dernière question pour vous, Pierre Fillon. Qu'est-ce que ça serait une 87e édition parfaite des 24 heures du Mans?
Alors d'abord, on va avoir 62 voitures, ce qui est un record, ouais, c'est jamais arrivé. Donc on a été obligé de construire deux garages éphémères supplémentaires. Alors bon, on peut espérer qu'il fasse beau parce que c'est quand même beaucoup plus sympa pour tous les spectateurs. La course, elle va être de toute façon extrêmement disputée, même en LMP1 certainement, parce que même si Toyota est sur le papier a un avantage, rien n'est jamais écrit.
Mais ils font un tour de plus, hein, normalement, pour chaque relais.
Oui, ouais. Parce qu'ils consomment un peu moins.
Voilà,
avec
consomment un peu moins.
Mais s'ils rencontrent le moindre souci, la course sera effectivement relancée. Après, on a le LMP2, qui il y a 20 voitures. C'est une catégorie où les voitures sont très très proche en termes de performance, un niveau très élevé, avec des pilotes de haut niveau. Et là, on va avoir une très belle course. N'oubliez pas que c'est LMP2, elle roule aussi vite que la 908 en 2008, 2009, 2010. Hein. Donc c'est des voitures très rapides. Et en GT, on a un plateau de rêve.
On
a 6 marques, ouais. On a Ford, on a Ferrari, on a Porsche, ouais. On a Aston Martin, on a BMW, ouais. On a Chevrolet Corvette. Et là...
Et là, les voitures, elles ressemblent à quelque chose. Là, on les reconnaît instantanément. Là, oui.
Elles sont quasi dans la même seconde. Ouais, ouais. Et il y a 2 ans, ça s'est joué dans le dernier
Exactement.
Tour.
Exactement.
Merci beaucoup, Pierre Fillon, d'avoir été
Merci
avec
Pierre.
Nous dans Motors.
Merci à vous.
Évidemment, nous serons aux 24 heures du Mans. Jean-Luc Roy et Luc Avinois nous ferons vivre l'événement depuis le circuit Bugatti du Mans le week-end prochain. Merci beaucoup.
Vous serez bienvenu dans le studio, Pierre.
Président de l'Automobile Club de l'Ouest. 13h24 sur RMC. Dans un instant, Motors revient pour parler Formule 1, Grand Prix du Canada ce soir. Vettel en pole position. À tout de suite.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis
Amar,
Jean-Luc Roy.
Sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez dans Motors avec Jean-Luc Roy et Adrien Tambay. Dans une vingtaine de minutes, Radio Paddock, on évoquera le Grand Prix de France de Formule 1 qui arrive dans quelques semaines avec son ambassadeur Éric Boulier qui sera notre invité. Il y aura aussi un petit peu d'IndyCar. Mais d'abord, justement, de la F1, le Grand Prix du Canada qui arrive ce soir.
RMC Motors. Le tour de chauffe.
C'est ça le bruit d'une pole position en fait. On sait pas le bruit que ça fait une pole position. Mais voilà ce que ça fait. Ça a fait du bien parce que ça faisait longtemps. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça pour Sébastien Vettel?
Oui, je pense que c'était presque une surprise pour Sébastien Vettel. Il nous a sorti un tour vraiment d'anthologie. Il était à 5 centièmes de Lewis Hamilton dans le premier secteur. Pareil dans le deuxième secteur. C'était pas le meilleur, mais il nous a sorti un troisième secteur fabuleux avec une Ferrari qui est certes plus rapide dans la ligne droite. Mais voilà, il a fait le tour parfait. Je pense que c'est un circuit assez compliqué en qualification. Montréal, un circuit assez bosselé, où on est très très proche des murs, à de grandes vitesses, avec des appuis aérodynamiques un peu faibles. Donc voilà, quand on fait un tour parfait, on est content, et pour Vettel, c'était le cas.
Content, d'autant plus que Jean-Luc, Mercedes avait apporté une évolution à son moteur qui semblait marcher, notamment lors de la première séance d'essais libres, et donc symboliquement, c'était fort de voir une Ferrari passer devant une Mercedes hier en qualification.
Écoute, c'était extrêmement fort. Bon, on les avait vus performants également en essais libres. C'est toujours quand même un bon éclairage, on va dire, sur le week-end. Maintenant, on se dit que effectivement, il y a le mode magique, notamment en moteur. Et tu le disais, comme Mercedes apportait des éléments moteurs nouveaux que Ferrari avait déjà apporté lors de Monaco, même si Monaco n'est pas un circuit de moteur comme nous le savons, alors que le Canada, oui. Ben, moi, j'adore ce tracé. De toute façon, l'ambiance est vraiment excellente à tout niveau. L'ambiance dans la ville, évidemment, est formidable de Montréal. Cette île Notre-Dame avec ce tracé particulier, les marmottes qui sont là pour applaudir les pilotes au début. Non, mais c'est toute
c'est
une
fabuleux.
Ambiance.
C'est vraiment fabuleux.
C'est fabuleux.
Pendant une semaine là-bas, c'est.
Ouais. Et puis Adrien l'a évoqué. Il y a des murs. Alors, je fais toujours très attention quand je dis ça pour pas qu'on me prenne au premier degré. Mais c'est un circuit naturel. Noël. C'est un circuit de couillus, j'y vais carrément. C'est un circuit où il faut du courage aux pilotes. C'est pas un circuit où quand tu sors, eh ben t'as 300 mètres pour te récupérer. Et puis en fait la sanction, là il y a une sanction immédiate. Il y a les murs. On vient lécher les murs comme Adrien l'a évoqué. On a vu les pilotes et les meilleurs et d'autres embrasser le fameux mur des
le mur des champions. Et d'autres.
Mais oui, ben oui. Non mais il y a eu tout le monde qui est venu taper. Bon, Magnussen a terminé effectivement.
Il est dans quelle catégorie lui?
Non, mais il est dans les bons. Il a tapé le mur. En tout cas, il a détruit sa monoplace. Il partira donc descendre. Enfin, je veux dire, voilà, il y a une sanction. Et finalement, c'est ce que les pilotes souhaitent aussi. Alors,
bien sûr.
Entends-moi bien. On va pas faire
avec
des
sécurité,
murs.
Sécurité, évidemment.
On est d'accord. On ne va pas créer des murs artificiellement. Mais je crois que quand il y a une sanction, quand c'est pas seulement après la direction de course qui estime qu'on a coupé là et on met 5 secondes, où là, c'est vraiment personne n'y comprend rien. Voilà, bah, c'est un vrai beau circuit pour hommes ou pour femmes talenteuses. Ça veut dire que, eh ben, on a des performances. Et là, Vettel, chapeau. Là, il nous a sorti un tour de folie. Voilà.
Une Ferrari en tête, donc celle de Sébastien Vettel. Écoutez sa joie. Finalement, quand il s'est présenté devant Luca Vignon en zone d'interview, il n'était pas tellement redescendu.
Lorsque vous criez comme ça, je ne me rappelle d'ailleurs pas à quel point j'ai crié fort, mais bien sûr, c'est un grand soulagement. Beaucoup d'adrénaline en qualification ici, surtout avec les murs qui sont très proches. C'était très intense. Quand j'ai passé la ligne, j'étais vraiment content. Mais recevoir la confirmation par la radio que nous l'avons fait devant Lewis, j'étais juste extatique. Je suis très heureux pour l'équipe après ces dernières semaines, ces derniers mois. Une telle performance aujourd'hui, c'est ce qu'ils méritent et j'espère que nous pourrons concrétiser.
Carry that into tomorrow. Il l'a dit Sébastien Vettel au micro de Lucas, devant Lewis. Dans le détail, la grille, ça donne Vettel en pole position, Lewis Hamilton deuxième, Charles Leclerc troisième, Daniel Ricciardo, on va y revenir à bord de sa Renault en quatrième position, cinquième place pour Pierre Gasly, le français de Red Bull devant Valtteri Bottas sixième, Hülkenberg, Norris, Verstappen et Kvyat complètent le top 10, Romain Grosjean lui partira en quatorzième position. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette pole position pour Ferrari? Est-ce que c'est un épiphénomène sur ce circuit où avoir la meilleure vitesse de pointe, le meilleur moteur est un indiscutable atout, ou est-ce que ça peut préfigurer un tournant?
Ouais, c'est un atout certainement. Si la Scuderia Ferrari n'arrivait pas à réagir ici à Montréal, on aurait vraiment pu se poser des questions pour la suite du championnat. Et je crois que la meilleure preuve de ça, c'est les propos de Lewis Hamilton après la qualif. Peut-être un peu de démagogie, mais il était quand même content de voir Sébastien Vettel de retour en forme parce que il aime son sport. Je crois qu'on aime tous la Formule 1, on a envie de voir une vraie bataille. Et c'est vrai qu'il y a une petite réaction. En tout cas, les Ferrari semblent être assez performantes. On verra sur la durée de la course. Il faudra encore une fois ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Stratégiquement, au niveau des décisions, être cohérent un peu plus que depuis le début de la saison. Et on aura une belle bataille.
Par parenthèse, pour rebondir sur ce que disait Adrien, on a redéfini les rôle chez Ferrari. Donc là aussi, nos critiques ont toujours été constructives, hein, parce qu'encore une fois, on adore la Scuderia, comme tous les teams de Formule 1, y compris Williams, pour qui on a un énorme respect. Donc je veux dire, quand on critique, c'est positivement, c'est dire à Ferrari, mais réveillez-vous, dans un chien, le potentiel de la voiture est supérieur à ça, le potentiel des pilotes est supérieur à ça, arrêtez de vous prendre les pieds dans le tapis. Et donc, on a redéfini les rôles, et c'est tant mieux, et j'évoquais Laurent Méquès à chaque fois, c'est pas uniquement parce qu'il est français, c'est aussi parce qu'il est français, c'est un type extrêmement performant, qui est maintenant patron du sport au sein de la Scuderia. J'espère aussi, il y a toujours un autre stratège, paraît-il, mais j'espère que le stratège a compris les leçons, les mauvaises leçons. On apprend de ses échecs et pas de ses réussites. Donc j'espère que chez Ferrari, maintenant, on va exploiter tout le potentiel de la voiture.
Signe que la Ferrari est performante ce week-end et qu'elle l'était hier en qualification. Charles Leclerc a terminé troisième, mais il a terminé insatisfait.
Je suis quand même très déçu, même si je suis très content pour le team. Seb le mérite complètement, il a fait un énorme tour. Moi non, donc voilà, il faut que je me concentre sur moi-même. C'est vrai que j'ai pas vraiment suivi l'évolution de la piste avec la voiture, et ça, il faut que je sois meilleur à anticiper l'évolution de la piste pour que la voiture, ou en tout cas pour que les réglages de la voiture conviennent au mieux à la piste en Q3, ce que j'ai pas bien fait. Donc voilà, il faut que je comprenne où est-ce que j'ai fait l'erreur.
Il y avait un doublé à aller chercher pour Ferrari.
Ah, c'est clair. Et toujours très honnête, hein, il faut le souligner, oui. Charles Leclerc. Très honnête, là, il reconnaît, c'est moi. Il dit, c'est pas l'équipe, c'est moi. J'ai pas su anticiper, j'ai pas su demander. Moi, j'admire ça profondément. Quand on a 21 ans, qu'on débarque chez Ferrari, c'est la première saison. Bah, écoute, il a une lucidité extraordinaire. Je l'ai dit tout à l'heure dans les paris. Moi, j'en fais un de mes favoris, sinon le favori pour cette épreuve, parce que je pense qu'il apprend à chaque fois de ses petites erreurs. Je pense qu'il a bien travaillé pour la course, parce qu'on l'a vu faire des longs relais en essai libre. Tu l'as vu comme, vous l'avez vu comme moi. Et je pense qu'effectivement, Charles, il est mûr pour cette première victoire. Et elle pourrait arriver là. Donc c'est très bien qu'il soit mécontent de cette troisième position sur la grille. Il partira quand même du bon côté, balayé. Oui. Maintenant, on sait que le départ, on en a vu d'autres, hein, au premier freinage.
Charge à Charles Leclerc de prendre le meilleur sur le deuxième, sur Lewis Hamilton. Pourquoi pas dès le départ, pourquoi pas dès le premier virage, Lewis Hamilton, champion du monde en titre, deuxième sur la grille, et lui, heureux.
Je me sens bien, j'ai réalisé une bonne séance de qualification. De manière générale, la journée a été positive. Félicitations à Sébastien qui a fait un tour fantastique. Pendant les essais, j'ai heurté le mur et n'ai pas pu participer à toute la séance. J'étais donc un petit peu sur la réserve aujourd'hui. Les autres ont fait entre 28 et 30 tours de plus que moi pendant les essais libres. Sur les longs relais notamment, je ne sais pas trop où nous nous situons. J'ai donc essayé des choses un petit peu différentes en termes de réglage. Mais j'étais présent en qualification dans la bataille pour la pole position. Malheureusement, nous n'avons pas été assez rapides pour décrocher la première place, mais nous sommes là entre les Ferrari, donc je suis content.
Lewis Hamilton au micro de Lucas Vignon, on va l'écouter jusqu'au bout. Est-ce que c'est un dilemme pour Lewis Hamilton ce soir? Est-ce que il est un petit peu pris entre deux feux? D'abord devoir aller chercher Sébastien Vettel, mais en même temps défendre sa position par rapport à Charles Leclerc.
Je crois que
c'est très clair pour lui.
C'est un winner, Lewis Hamilton. Ouais, le Canada, ça lui est réussi très très bien.
Six pôles, six victoires.
C'est quand même voilà, il n'y a pas de question à se poser. S'il peut aller la chercher, il va aller la chercher. Il va pas commencer à regarder dans les rétros. Et puis il a quand même collé presque 5 dixièmes à Charles Leclerc en qualification. Donc pour lui, il a raté la pole position de peu sur Sébastien Vettel. Maintenant, il va être en course avec le DRS. L'avantage de la Ferrari,
un nouveau moteur
en ligne droite. Être un peu moindre en course, donc non, ça va être très intéressant. Et puis avec un Bottas qui part derrière, un Verstappen qui part derrière, un circuit où ça dépasse, ça va vraiment être une bonne course.
Et puis il est quand même en tête du championnat du monde. Alors je voulais dire, il a quand même commis cette erreur lors des essais libres où il s'est quand même mis dans le mur aussi, un autre, pas le mur des champions mais un autre, renvoyé d'ailleurs par le vibreur à l'intérieur. Bah là aussi il a été humble, il a appris, il a dit bah oui, là j'en ai fait une grosse, là c'est pour lui. Il était d'ailleurs embêté de fournir ce travail à toute son équipe de mécaniciens, mais ça veut dire ça reste un homme. Moi, Hamilton, j'apprécie vraiment ce côté winner. Oui, pour répondre à ta question, ça va être flat out. Hein. Ouais. De toute façon, il va regarder que devant et derrière, ça l'intéresse pas.
Derrière, loin derrière, il y a son équipier, Valtteri Bottas, sixième place. Il a dit, à l'issue des qualifications, je suis choqué par ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais c'est un peu le même schéma entre les deux pilotes Ferrari et les deux pilotes Mercedes. Chez Ferrari, il y en a un qui a réussi à faire le tour parfait, c'est Vettel. Il y en a un autre, Charles Leclerc, qui était en dehors de cette fenêtre de bon fonctionnement de ses pneus, de sa voiture, de son équilibre, c'est ce qu'il disait au micro de Lucas. Et chez Mercedes, c'est un peu pareil. Lewis Hamilton qui a réussi à faire un très bon tour, Bottas qui est à 7 dixièmes de son coéquipier. C'est un peu le même écart entre les deux pilotes des deux côtés, et on a vu Bottas presque galérer avec le train arrière de sa voiture tout le long de la qualif, avoir des soucis de survirage, et c'était un peu le cas de Charles Leclerc. Donc voilà, je pense que la fenêtre était tellement mince au niveau de l'utilisation des pneus et le changement aussi d'adhérence de la piste, l'évolution constante de la piste, que d'être vraiment à 100% en Q3, c'était un gros challenge hier.
Et puis il s'en est offert une, il a eu chaud aux plumes, Bottas aussi, parce qu'il est parti dans un gigantesque tête à queue à haute vitesse. Il s'en est bien sorti, il a pas touché les murs, mais comme il a dit, ça a peu affecté la confiance. Donc le meilleur tour de qualif qu'il a pu faire, c'était celui-là. Il était un peu en dedans, un peu en deçà, et la sanction elle est immédiate. Effectivement, à ce niveau-là, maintenant, ça pardonne plus, même quand on pilote une Mercedes.
Il y a un invité surprise dans le haut de cette grille de départ, et même sur la deuxième ligne. Cet invité surprise, il s'appelle Daniel Ricciardo, qui partira quatrième ce soir. C'est la meilleure qualification pour une Renault depuis 9 ans, depuis Kubica en 2010. On en parle dans un instant, mais d'abord, écoutez la joie. De toute façon, Daniel Ricciardo, il a toujours le sourire. Mais hier, encore plus.
Je n'aurais jamais pensé être aussi heureux pour une quatrième place en qualification. La joie que j'ai éprouvée lorsque l'équipe m'a dit que j'étais quatrième, c'est quasiment comme si j'avais fait la pole position. C'était vraiment un sentiment génial. Oui, c'est ça, vraiment cool. Cette piste est intéressante. J'ai toujours aimé rouler ici, mais vous l'appréciez encore plus, cette piste, lorsque vous y faites de bons résultats. Nous étions rapides depuis le début de la journée, même durant les essais. Les choses se sont bien passées. Nous avons été encore meilleurs pendant les qualifications. On a réussi à mettre tous les éléments ensemble, et c'est vraiment cool.
Un éclat de rire pour finir, évidemment.
La banane,
pas le louper. Je crois que c'est au Canada qu'il a remporté
son premier grand prix.
Et voilà, c'est ça, le Canada 2014. Donc, il y a sans doute une amélioration apportée par Renault, ou sans doute une éclaircie, comme j'utilisais le mot tout à l'heure pour Ferrari, mais il y a aussi peut-être ce rapport particulier que lui entretient avec cette piste et sur laquelle il est en confiance.
Oui, c'est un peu des deux, parce que mettre 3 dixièmes à Nico Hülkenberg sur un circuit où il y a quand même très peu de virages, où on roule en une 10, c'est un temps assez court, c'est quand même un gros écart. Donc ça veut dire que Daniel a vraiment un rapport particulier avec ce circuit, qu'il est très performant là, il est un peu équilibriste aussi, il est très bon dans les circuits en ville. Là c'est pas un circuit tout à fait en ville, mais bon, il y a des murs.
Un peu mixte.
C'est un peu mixte, c'est semi-urbain. Et voilà, escalader ses vibreurs, faire corps avec sa voiture sur ce circuit un peu bosselé, ben c'est quelque chose que Daniel fait à merveille. Et puis bon, faut aussi tirer, je pense, un coup de chapeau à Renault qui, malgré des débuts difficiles, là voilà, 4 et 7 sur la grille. Ouais. Faut quand même le souligner, ouais. Ça progresse doucement, mais sûrement ça progresse. Et espérons que ça continue comme ça.
Écoute, oui, il faut qu'ils sortent de cette mauvaise passe. On rappelle qu'ils sont seulement pour le moment 8e avec 14 points, hein, devancé par Toro Rosso, par Haas, par Racing Point, ce qui est absolument inadmissible. Ils étaient 4e l'an dernier. Donc on peut parler, j'ose le dire, et ça tombe bien avant le Grand Prix de France, évidemment, de renaissance pour Renault, avec, Adrien vient de le dire, un Ricardo au sommet de son art, un Hülkenberg qui n'est pas loin du tout. Et puis on rappelle toujours que Ricardo est un excellent pilote de course, c'est-à-dire que le dimanche, il est encore plus motivé qu'en qualif. Il tire le meilleur, là aussi. On ne sait jamais ce qui va se passer, effectivement, là-bas. On parie quand même sur de fortes chances qu'il y ait un safety car. Si la stratégie l'aide bien, il peut être dans le top 5, hein, sans problème, oui. En partant d'où il part, et ça peut être la renaissance de Renault, et placer deux voitures dans le top 10 et une dans le top 5, ce serait vraiment génial.
Alors qu'arrive le Grand Prix de France.
Exactement.
Ça n'est pas neutre.
Eh ben, ça n'est pas neutre du tout.
On donc, en
parlera. Ça tomberait très bien. Ça veut dire aussi que le moteur a progressé.
Absolument.
Parce que c'est un circuit de moteur, donc ça veut dire que là, on avait été en deçà, et d'ailleurs, très honnêtement, on l'a avoué, Cyril Abitbol l'a dit, on était en deçà pour des raisons de fiabilité dans les premiers Grands Prix. Bah là, ça y est, on donne tout et puis bah ma foi, on est pas bien loin des meilleurs. C'est super.
Juste derrière Daniel Ricciardo, il y a celui qui lui a succédé chez Red Bull, c'est Pierre Gasly qui a battu son équipier Max Verstappen en qualification et qui se retrouve en 5e position. Encourageant, ça confirme ce qu'on avait vu de Pierre Gasly ces dernières semaines, c'est-à-dire une nette progression.
Oui, puisque en essai libre, il était un coup devant et un coup derrière Max Verstappen en performance pure et à la régulière. La qualification là n'est pas forcément caractéristique des vraies performances.
Parce que Verstappen était handicapé dans son tour le plus.
Il restait bloqué en Q2.
C'est vrai.
Ça aurait été peut-être différent, mais en tout cas,
lui, il a fait le boulot.
En tout cas, Pierre a fait le boulot et il y a un truc, c'est que la roue tourne, la réussite, voilà, elle est là du côté de Pierre hier. Donc, on sait en sport automobile quand même que ça joue une grande partie dans le résultat final. Et Pierre, il part cinquième sur un circuit où ça double,
où ça peut dépasser,
où il y a une dégradation pneumatique. Bon, il va partir en pneumatique soft. Hein. On en parlera plus tard. Mais
les Ferrari,
ça,
les Mercedes,
ça c'est pas un avantage. Mais il a quand même une belle carte à jouer avec un Daniel Ricciardo devant qui a une Renault qui est mangeable entre guillemets.
Et est-ce que ça peut être effectivement la course qu'on attendait pour Pierre Gasly, oui. C'est-à-dire la sortie du bois avec un Verstappen. Il va remonter. On le sait, Verstappen, il va être remonté comme une pendule, surtout qu'avec, effectivement, Magnussen, Sainz, etc., il va partir mieux que prévu, pas 11e, mais 9e. Mais en tout cas, ça veut dire que Pierre va être la meilleure chance de Red Bull Honda sur la grille, et c'est une chance formidable qu'il va savoir exploiter, parce qu'il est fort en course également. On rappelle ses meilleurs tours en course. Bon, là, ce sera peut-être plus difficile s'il a... Mais pourquoi pas, Pierre, avec des circonstances, Pierre dans le top 3, Pierre sur le podium, va savoir.
Why not?
On verra ce soir si, comme dirait le poète, la roue tourne à tourner, n'est-ce pas, Adrien? C'est bien l'enjeu du Grand Prix du Canada. Comment faire, Pierre Gasly, pour rester accroché aux Ferrari et aux Mercedes, qui seront sans doute devant lui à un moment du Grand Prix? Sa réponse au micro de Lucas Vinoy.
C'est jamais simple. Après, ils ont l'air assez compétitifs ce week-end, donc on va forcément essayer de tout faire pour rester avec le groupe de devant. On va partir avec les softs. Je pense que ça va être assez intéressant pour vous de regarder de l'extérieur, parce qu'il y a vraiment beaucoup de dégradation, mais il va falloir être... intelligent pendant les 70 tours.
C'est le moment d'en parler peut-être de la stratégie. Ouais. Elle sera très importante compte tenu de la dégradation, compte tenu aussi des potentialités élevées de safety car.
Oui. Jean-Luc, vas-y, si tu veux.
Non, mais juste, j'allais rappeler les histoires de les deux Mercedes, les deux Ferrari sont qualifiés en Q2, hein. C'est toujours un peu compliqué à comprendre, mais on le sait, c'est ce qui sert pour le Q2, qui est utilisé pour le départ. Donc, on sera en médium. Donc, on va aller plus loin. La stratégie, normalement, c'est un arrêt. Sauf problème, évidemment, puis on sait qu'il y en a éventuellement au Canada. Donc, ils vont essayer d'aller au moins jusqu'à mi-course, hein. Il y a 70 tours à parcourir jusqu'au 34-35e tour à la louche, comme ça, avec ce train de pneus, si rien ne s'est produit entre temps. Et ensuite, on monte effectivement les softs. Et pour les autres, c'est l'inverse. On vient d'en parler avec Pierre. Bah, Pierrot, il aura l'avantage au départ, lui, d'avoir des pneus performants, rapidement en température, etc. Peut-être qu'il peut arriver en sauter un ou deux, va savoir dans les premiers tours.
Mais ça sera compliqué pour Pierre. On a vu quand même ces pneumatiques soft. C'est pas pour jeter la pierre à Pirelli, mais voilà, qui font pas vraiment leur travail. Ils surchauffent assez vite. Donc voilà, pour Pierre, l'avantage, il sera vraiment dans les deux premiers tours. Ensuite, c'est les pneumatiques médium qui seront plus performants. Et le seul, en fait, le vrai désavantage à partir en pneumatique tendre pour Pierre et pour les autres, à part les quatre protagonistes, les quatre de devant, c'est effectivement de n'avoir qu'une solution. La seule solution, c'est de faire deux arrêts. Deux fois. Alors que les autres...
Et ça, c'est pas bon. Hein.
Alors que les autres, on peut s'arrêter une fois ou deux fois. Partant en médium, on a encore le choix, voilà.
Ouais. Ou alors il faudra emmener les pneus médium ou dur, parce que certains peuvent éventuellement. On a vu pas mal de pilotes essayer des long runs en dur, peut-être sur ce tracé, comme il fera très chaud. Là aussi, il y a des stratégies, c'est très ouvert là, vraiment.
On termine avec un mot de Romain Grosjean, Jean-Luc, qui s'élancera en 14e position. Il n'avait pas le potentiel pour faire mieux, disait-il hier à l'issue de la séance de qualification.
Non, on l'a senti bizarrement, alors que la machine globalement est performante. Hein, Magnussen a toujours été là. Lui, il n'a pas été bien non plus en essai libre. Et malheureusement, là, ça s'est pas bien passé en qualif. Alors là aussi, il a un peu de chance parce qu'il récupère quelques places, effectivement, avec Magnussen notamment, son équipier qui partira des stands.
Et la pénalité de Sainz.
Et la pénalité de Sainz. Mais en fait, si tu veux, la difficulté pour Romain, ça va être de passer au travers des sprouts, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire des accrochages et des problèmes qu'il peut y avoir. Puis tu sais, forcément, on est très ralenti derrière par rapport aux pilotes d'avant.
Ouais, c'est l'entonnoir.
C'est l'entonnoir, exactement. Maintenant, la machine, la moteur Ferrari, on le rappelle, qui est donc performant, oui. Forcément. Écoute, il peut remonter. Puis si l'effet de course l'aide un petit peu, et de ce côté-là, on n'est pas trop mauvais chez Haas, donc il peut jouer une place dans le top 10, bien sûr.
Et puis pour terminer, week-end difficile pour le régional de l'étape, comme on dit, Lance Stroll à bord de sa Racing Point ex Force India, qui s'élancera en 17e position. Grand Prix du Canada ce soir à 20h10 en direct en intégralité sur RMC avec vous les gars et Lucas Villon en commentaire. 13h44 dans un instant Radio Paddock. On continuera de parler de Formule 1, mais de parler du Grand Prix de France. C'est la prochaine date au calendrier. Ça arrive dans 15 jours. Éric Boulier, l'ambassadeur d'événements, sera avec nous tout de suite.
MC Motors. World champion. Radio Paddock.
On en parlait il y a un instant. Grand Prix du Canada ce soir. Grand Prix de France dans 15 jours sur le circuit du Castellet. Monsieur l'ambassadeur et l'invité de Motor, c'est Éric Boulier. Bonjour Éric.
Bonjour monsieur.
Et merci d'être avec nous en direct sur RMC.
Salut Eric, merci beaucoup d'être avec nous effectivement. Alors, écoute, j'ai envie de rebondir sur la grille de départ du Grand Prix du Canada. Hein, ça peut pas être mieux avec un Pierre Gasly cinquième et puis juste devant il y aura Daniel Ricciardo, les deux Renault performantes. On va oser dire que ça tombe à point, Eric.
Je vais faire rire, mais c'est un petit peu le contenu du message que j'avais hier soir avec Cyril.
Ah ben tu vois.
qui m'a dit ça fait du bien, mais ça va vous aider. Ouais. Et oui, c'est vrai. Non, c'est bien de voir un Pierre qui a su prendre le relais quand Max a eu bon la malchance de pas pouvoir finir son tour, mais une stratégie un peu difficile. C'est aussi une belle grille. Enfin, une Ferrari devant les Mercedes, c'est quand même assez mixé devant, donc ça devrait faire une belle course en tout cas. Ouais. Et pour le Grand Prix de France, effectivement, c'est bien de voir la relève française enfin commencer à pointer le bout de son nez.
Eh ben écoute, tu vois, c'était ma deuxième question, mais tu l'as devancé avec Ferrari, effectivement, qui relance la machine. Et si on a là aussi, hein, on prend pas parti, toujours pareil, mais si on a une belle course des Ferrari, on va dire, et pourquoi pas une victoire, bah ça remettrait effectivement tout ce qu'il faut dans le comme suspense, parce que bon, c'est vrai que la domination de Mercedes, on les adore, hein, et Hamilton le premier, mais elle était un peu écrasante, t'es d'accord avec nous?
Bah, écrasante, c'est jamais bon pour le show. Maintenant, ouais. On sait tous qu'il y a une course en dehors de la piste, hein, la course au développement. On a vu Barcelone grosses dates. Maintenant, on sait que le Grand Prix de France devient une date aussi qui est importante avant le début de l'été, parce que beaucoup d'équipes vont amener beaucoup de nouvelles pièces pour essayer de faire encore un gain en avant. Donc, c'est bien de voir que ça commence à fonctionner pour les équipes qui étaient derrière Mercedes.
Bah oui, tiens, j'ai même enfin envie de te faire dire un mot sur Simon Pagenaud qui a remporté les 500 miles d'Indianapolis. T'as dû suivre ça évidemment aussi de très très près. Et là où malheureusement Fernando avait pas pu se qualifier, aussi c'est bon pour le sport automobile français. On le tient ce flambeau nous du sport automobile en France et on le défendra jusqu'au bout. Eric, tu es d'accord?
Ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis ravi de courir, même si j'aime pas ça, pour supporter ce flambeau, cette course au flambeau. Mais bon. Non, Simon, exceptionnel.
Ce qu'il a génial. Fait,
il a pour les, et franchement, je suis ravi pour lui. J'avais la chance de commenter en direct et j'ai pu suivre évidemment en course. Et extrêmement ravi pour ce brillant jeune homme qui est un gros travailleur et qui le mérite.
Qui le mérite, voilà. Allez, on en vient au Grand Prix de France, c'est bientôt, hein, c'est juste après, c'est le prochain, après le Grand Prix du Canada. On en a déjà beaucoup parlé avec tous les organisateurs, hein, évidemment. Avec toi, je voudrais parler de l'aspect sportif. On garde la chicane dans la ligne droite, hein, c'est ce qu'on avait dit, puisque elle a prouvé son bon fonctionnement l'an dernier, puis les pilotes étaient assez pour, je crois. C'est une zone de dépassement intéressante.
Alors c'est une zone de dépassement intéressante, effectivement, c'est aussi bien pour le public, parce qu'ils peuvent aussi, au lieu de voir des voitures qui roulent à 340, ils peuvent les voir justement moins vite. Et au final, effectivement, quand on regarde les pour et les contre, tout le monde a son opinion, ce qui est normal, mais c'est bien à garder, je pense.
Ouais. Une autre modif qui a eu lieu, c'est l'entrée et la sortie des stands, hein, je crois, parce que ça pouvait éventuellement poser problème, donc on a modifié ça, et je crois que ça a été testé lors de courses GT, ça fonctionne bien aussi.
Alors, le circuit Paul Ricard a fait un excellent travail, effectivement. Alors, pas la sortie des stands, mais c'est l'entrée. Mmh. L'entrée de la pitlane a été complètement revue, et maintenant, elle est juste à la sortie de l'avant-dernier virage. C'est beaucoup plus sécurisant, surtout pour des voitures comme les F1 qui roulent à 80 km/h. Ouais. Effectivement, il y a eu déjà plusieurs courses sur le Paul Ricard, et ça s'est très bien passé, et tout le monde était ravi de ces modifications.
Alors, je sais que c'est moi ta partie, mais on en a déjà parlé, mais je le fais répéter. Il ne devrait pas y avoir de problème d'accès cette année, parce que les consignes ont été passées, y compris aux gendarmes. J'assiste lourdement, parce que l'an dernier, ils ne les avaient pas. On va pouvoir se rendre au circuit et le quitter dans de bonnes conditions, Eric. Tu me confirmes?
Je vous confirme à 100%. Il y a eu un travail énorme de fait, et c'est pas seulement des consignes qui ont été passées. C'est aussi tout le travail de simulation qui a été fait et qui a permis aujourd'hui d'avoir tout un schéma différent en partant des parkings supplémentaires de délestage sur la Ciotat et le Castellet avec des transferts garantis en bus toutes les 2 minutes de 40 minutes.
Parfait.
C'est tout un tas de choses comme ça qui, notamment, et puis l'application Waze qui devrait aussi être mise à jour en permanence avec des personnes sur place. Donc, ce qui va permettre aussi d'aider, puis le trafic surtout. On a multiplié par 3 les possibilités d'accès au circuit. Il n'y a plus de voitures qui vont se croiser. Enfin, on a simplifié tout. Donc, c'est garanti maintenant. Le problème devrait être fixé.
Éric Boulier, l'ambassadeur du Grand Prix de France et l'invité de Motors en direct sur RMC. Éric, au-delà de ce plan de circulation qui n'a pas tout à fait de votre ressort, même si...
Non, mais je voulais qu'on en parle parce que voilà, c'est très important
absolument,
pour les gens qui l'ont mal vécu.
Qui viennent, voilà. Absolument. Pour l'image de ce Grand Prix aussi.
Bien sûr.
Par rapport à ce que vous avez fait l'année dernière, qui était le retour du Grand Prix de France, quelles sont les choses que vous souhaiteriez améliorer par rapport à la première édition depuis le retour de ce Grand Prix?
Tout ce qui n'a pas été.
Alors, qu'est-ce qui n'a pas été dans le détail? Allons-y.
Non, mais c'est plein de détails après. On a eu la chance, moi j'ai eu la chance de le vivre différemment puisque j'étais à l'intérieur, mais en tant qu'équipe. Mais l'équipe qui a mis le Grand Prix en place, en tout cas, a fait un boulot incroyable. Je veux dire, après, il y a plein de détails. Ce sont plein de points de détails. Alors, il y en a un qui n'était pas un point de détail, c'est effectivement la mobilité, mais ça s'est réglé. Mais après, c'est plein de choses. C'est-à-dire, on a rencontré les fans, on a discuté avec eux, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. Donc il y a le travail sur la piste. Bon, ça, c'est pas entre nos mains, c'est à la main des équipes. Et c'est pour ça qu'on est content de voir un Pierre Gasly et puis une Ferrari commencer à se pointer au devant, parce que ça devrait faire un show encore mieux sur la piste. On a aussi, par exemple, la Renault Clio Cup qui va nous rejoindre avec plus de 50 voitures. Donc ça va être un beau spectacle aussi pour les fans sur la piste. Et après, il y a tous les petits trucs comme... Voilà, un peu plus d'ombre, un peu plus de d'eau, de points d'eau, des choses comme ça qui ont été énormément améliorées, repensées. Ils ont vraiment tout remis à plat. Et donc ça devrait être encore une très belle expérience. Et en plus, voilà, cette année il y a 3 concerts. C'est autour de la musique, il y a un deuxième village qui va être créé, comme le village provençal sud qui était. Donc tout un tas d'animations sur la piste et hors piste. Donc je pense que là, on ne devrait pas être trop mal.
Et puis, qu'est-ce qui manque? Alors moi, je vais te le dire. Il manque une victoire d'un Monégasque, par exemple, au Grand Prix du Canada, tu vois, pour nous mettre sur la trajectoire. Un podium d'un pilote français également au Canada. Et pourquoi pas une Renault sur le podium aussi. Ça tirait ça, Eric?
Très bien, je signe où? Où est-ce que je signe?
Tu vas écouter RMC ce soir, t'auras tout. Eric, pour conclure, ou presque, un mot du public. Combien de personnes attendez-vous? Est-ce que tous les billets sont déjà vendus pour ce Grand Prix de France? Où en est-on?
Alors ça se vend plutôt bien en ce moment, mais on n'a pas tout vendu encore. On est encore à 15 jours de l'événement, mais en termes de public, ça va être plein, et on a 65 000 places maximum de toute façon, donc c'est quand même aussi limité en nombre de places. Mais ça se vend, et puis ça devrait être bien.
Un tout dernier mot, Eric. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur un circuit comme celui du Castellet, mais plus dans la peau d'un directeur d'équipe, dans la peau d'un organisateur, de quelqu'un qui est extérieur à la course? Est-ce que c'est un petit pincement au cœur ou est-ce que c'est une sensation qui vous plaît?
Alors non, pas du tout de pincement au cœur. Hein. C'est au contraire. Là, comme vous m'avez dit tout à l'heure, Canada, là ce soir, quand ils vont commencer à plier les équipes, bah, c'est direction le Grand Prix de France, direction le Castellet. Donc c'est on réalise que voilà, on a 15 jours maintenant et là il faut y aller quoi. C'est il faut être tout prêt. L'organisation aujourd'hui, là on est près de 750 personnes, donc faut tout mettre en place pour accueillir le circus et faire en sorte que ça se passe bien. Et là on n'a pas le temps de penser à autre chose et plutôt ravi et fier de faire partie de cette aventure.
Merci beaucoup, merci Eric Bouillet, d'avoir été avec nous en direct dans Motors.
Merci à vous, messieurs.
Et à bientôt. Ciao. Rendez-vous au Grand Prix de France dans deux semaines où, évidemment, RMC sera. On termine Radio Paddock avec Christophe Plenet qui nous rejoint. Salut Christophe.
Bonjour Louis. Jean-Luc, Adrien.
Salut Christophe.
Pour un mot d'IndyCar.
Effectivement, avec l'Américain Joseph Newgarden qui a consolidé sa première place au classement général du championnat IndyCar en s'imposant sur le circuit ovale de Fort Worth au Texas.
Excellent.
Victoire cette nuit. Newgarden a devancé au terme des 248 tours ses compatriotes Alexander Rossi et Graham Rahal. Il décroche la 13e victoire de sa carrière, la 3e de l'année. La première sur un super speedway. C'est quoi un super speedway, Jean-Luc?
Alors, ce sont les grands ovales. Effectivement, ovaux, comme tu veux, dans les grands ovales. Ça, c'est un peu comparable à, effectivement, Indianapolis où avant, il y avait l'ovale qui était à côté de Détroit, tout en haut. Mais Détroit n'était pas un circuit ovale. Et puis, il y en avait en Californie également, qui est moins utilisé. Ça veut dire que c'est les super speedways. En fait, c'est là que les vitesses atteintes peuvent frôler les 400 km/h. Donc, c'est une stratégie particulière, une qualification particulière. Et c'est vrai que Newgarden, qui était loin, hein, sur la grille, n'était que 7e avec sa Penske. Derrière Simon Pagenaud, on peut dire un mot peut-être des
deux Français. Justement, tu parlais d'Indianapolis, le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, Simon Pagenaud, prend une belle 6e place à moins de 3 secondes de son coéquipier.
Ça a été une course mouvementée, hein, en fait. Il y a eu pas mal de cartons et on sait que dans ces cas-là, il y a la stratégie qui joue et puis il y a la chance un petit peu aussi. Et on a vu effectivement les hommes les plus rapides être handicapés. Alors, on rappelle aussi qu'Alexander Rossi, le pilote américain, s'en sort très très bien. Bon, Newgarden est américain également, puisqu'il termine lui aussi 2e sur le podium devant Graham Rahal, un autre pilote américain. Ça veut dire que au championnat, et c'est là qu'on en arrive, Newgarden conforte un peu sa position, même si derrière Rossi est pas trop loin et Simon
25
aussi,
points d'avance pour Newgarden sur Rossi et 48 sur Pagenaud.
Et puis on va parler de Sébastien Bourdais quand même, qui s'est super bien qualifié, oui, qui était parti, qui était 3e sur la grille. Et puis là, lui, ça s'est un peu moins bien passé au stand, notamment. On rappelle que son équipe est moins puissante que les équipes Penske, Andretti et autres, et Ganassi. Mais enfin bon, il a sauvé les meubles, il est toujours 10e au championnat et il exploite au mieux ce qu'il a. En tout cas, on n'oublie pas l'IndyCar.
Tu parlais des stands, ça s'est pas très bien passé pour le japonais Takuma Sato,
oui, hein,
qu'on a connu en Formule 1. Il était parti en pôle, il a perdu tout espoir après un catastrophique ravitaillement après 60 tours, il a manqué son arrêt, il a percuté l'un de ses mécaniciens, Adrien. C'est incroyable, ça.
Ça s'appelle une Raikkonen.
C'est pas les choses qu'on veut voir. C'est super dangereux en plus de ça. Et ouais, non, mais Takuma Sato, ça a toujours été un attaquant. Et ouais, il est chaud. Un peu un kamikaze, par contre.
Heureusement, il n'est pas blessé, le mécano. Hein, oui. Mais enfin, il a fait une belle cabriole.
Merci Christophe, merci Jean-Luc, merci Adrien. On vous rappelle le rendez-vous de la soirée, 20h10, le Grand Prix du Canada. Avec vous et Lucas Vino en commentaire, autour de Jean-Christophe Drouet, mais lui, il est déjà là. Trop fort. Ça va, Jean-Christophe?
Ah oui, c'est vrai que je suis déjà là.
Bah oui, t'es déjà là.
Je suis là.
C'est tôt quand même. C'est dans 6 heures, hein, camarade.
Je sors du lit. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Salut Louis. Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas dit bonjour à la radio.
Eh oui?
Bonjour. Encore bonjour à ce moment-là.
Oui, on peut.
13h57 à 14h30, nous serons avec Jean-Luc Roy pour parler évidemment de ce Grand Prix du Canada, le 7e Grand Prix de la saison. Est-ce que Ferrari va enfin le faire? C'est évidemment toute la question. Et puis dans quelques instants, on prendra la direction de Porte d'Auteuil pour la finale de Roland Garros qui débute dans 1h et l'après-midi de feu sur RMC. Restez bien avec nous, à tout de suite.